qui inquiète beaucoup l'Élysée. Les étudiants et les lycéens vont-ils rejoindre le mouvement? C'est encore monté d'un cran aujourd'hui.
La plus rebelle des radios.
Bonsoir.
Bonsoir.
Nous sommes le mercredi 17 février 2016. Il est 19h passé de 5 minutes et c'est l'heure du Canu Info.
Et ce soir, un curé intégriste condamné en appel pour injure raciale contre Christiane Taubira.
Et le pacte de responsabilité, l'amour blessé de Valls pour l'entreprise.
Projet de loi sur le travail, on va en parler un peu.
Et démission de la tchatchère espagnole.
Accord trouvé pour les grévistes de Blestar Silicon.
Occupation de la fac par le comité de soutien aux sans-papiers, reportage.
La France-Afrique de Bolloré.
Les répressions dans les transports en commun.
Manif anti-homo, c'est au Sénégal.
Et les élus français ne supportent pas les homos.
Et puis on se terminera avec un petit agenda. Voilà. Il faudra peut-être aller jusqu'à Paris, non?
Ouais, pour une soirée de soutien à Fréquence Paris Pluriel. Et oui, l'abbé Xavier Beauvais, curé intégriste, a été condamné aujourd'hui en appel à. En appel, hein, à 2000 euros d'amende avec sursis, donc tout va bien pour lui, pour injure raciale. Donc il avait crié un slogan extrêmement raciste à l'encontre de Christiane Taubira, notre ex-ministre de la Justice, le 20 octobre 2013 lors d'une manifestation contre, je cite, la christianophobie à l'appel du mouvement Civitas. Et en première instance, le tribunal correctionnel de Paris l'avait relaxé le 19 mai dernier, estimant notamment que l'abbé n'était pas nécessairement informé de la connotation raciste du slogan. Donc quand même, je vais vous le dire ce slogan pour montrer la mauvaise foi du juge, parce que c'était « Y'a bon banania, y'a pas bon Taubira ».
Oh putain.
Voilà. Je veux dire, c'est hallucinant, c'est manifeste, que, comme on dit. Le tribunal de Paris ait pu dire ça, quoi. C'est vraiment choquant. Et donc, le parquet avait fait appel et aujourd'hui, il ne faisait aucun doute, par contre, pour la cour d'appel, que la formule était nécessairement en référence à la couleur de peau de Madame Taubira. Bon, de là à ce qu'ils disent raciste, c'est pas le cas, mais voilà. Donc, ben voilà, le racisme du quotidien en France.
Alors rappelez-vous, c'était il y a 2 ans que Valls aimait l'entreprise, qui déclarait comme ça « j'aime l'entreprise » et qu'il avait vraiment axé sa politique là-dessus. Eh bien bon, on va pas dire qu'il aime plus l'entreprise, mais là il y a un petit peu du rififi dans le couple quand même. Un tout petit peu, hein. Vous en faites pas, c'est pas non plus dramatique. Mais en tout cas, lundi dernier, il avait réuni un peu les partenaires sociaux pour faire le bilan de son pacte de responsabilité. Il s'avère qu'il est mécontent des engagements pris par les entreprises dans le cadre de ce pacte de responsabilité et qu'il a même, et ça c'est la première fois, menacé de conditionner les aides qui versent aux patrons. Alors bien sûr, il n'a pas dit comment, hein, on va y revenir un peu plus. Donc il a jugé que les engagements des entreprises ne sont pas suffisants et pour la première fois, il a... j'allais répéter une phrase que j'ai déjà dite. Alors voilà, cette histoire de pacte de responsabilité, ça avait commencé au moment des vœux télévisés du 31 décembre 2013. François Hollande avait il y a deux ans, avait proposé, ouvrez les guillemets, ce qu'il appelait un pacte de responsabilité aux entreprises, fondé sur un principe simple, moins de charges de travail, moins de contraintes sur leurs activités et en même temps une contrepartie, plus d'embauches et plus de dialogue social. Il n'avait pas dit à ce moment-là, et de la thune en masse.
Et surtout zéro contrainte pour les entreprises, quoi.
Et bien sûr, zéro contrainte pour les entreprises. Au total, ce pacte de responsabilité, alors c'est des histoires de 20 milliards d'euros de crédit d'impôt compétitivité emploi, donc ce qu'on appelle le CICE, une créance fiscale qui porte sur les salaires jusqu'à 2 SMIC et demi, donc les gens qui gagnent pas trop de thunes mais quand même un petit peu, des allègements de charges pour les rémunérations qui vont jusqu'à 1,6 SMIC, des réductions fiscales, réduction de l'impôt sur les sociétés, blablabla.
Des cadeaux quoi.
Des cadeaux qui en réalité augmentent chaque année parce que la première année ça devait faire aux alentours de 10 milliards et quand tous les dispositifs auront été déployés, ce qui devrait se faire en 2017, ça devrait faire 41 milliards d'euros par an que les entreprises, qui seront purs cadeaux pour les entreprises, des charges qu'elles ne payeront pas.
On pourrait se demander ce qu'on pourrait faire de 42 milliards d'euros.
On va y revenir. Parce qu'effectivement, on pourrait en faire des paquets de trucs. Mais alors, les patrons, eux, qu'est-ce qu'ils en font ? On va aussi y revenir. Donc, au début, François Hollande avait annoncé que ce pacte devrait être assorti de la part des entreprises, quand même de contrepartie sur, ouvrez les guillemets, c'est encore lui qui en parlait, des objectifs chiffrés d'embauche, de travail des jeunes ou des seniors, la formation, les salaires et la modernisation du dialogue social. Bon, quand un socialiste dit modernisation du dialogue social, en vrai, c'est pas aux entreprises qu'il faut le demander parce qu'elles sont pour la modernisation du dialogue social. La modernisation, ça veut dire le patron parle, l'ouvrier acquiesce.
C'est ça.
Le 5 mars 2014, le patronat a signé donc avec des syndicats, hein, les syndicats, bah, ma foi, les syndicats à la pointe de la lutte des classes, comme la CFTC, la CFE-CGC et la CFDT, qu'on appelle
bien sûr
toujours « Sors ton stylo plus vite que ton ombre ». Donc là, entre-temps, la CFE-CGC a quand même retiré sa signature. Mais donc à l'époque, ils avaient signé un truc qui parlait d'un relevé de conclusion et qui prévoyait de négocier ses contreparties. Donc les contreparties censées être données par les entreprises, branche par branche. Donc ils payent d'abord et puis après ils attendent des contreparties. Ils attendent une négociation des contreparties. C'est-à-dire ils payent pas en échange de contreparties déjà fixées. Le socialiste, il est comme ça, il voit un patron, il lui donne de la thune, et après il dit, bon, est-ce que peut-être tu pourrais faire un petit quelque chose ces négociations, il s'avère aujourd'hui qu'elles sont, comme qui dirait, très lentes à s'engager. Si bien que le gouvernement ne dénombre aujourd'hui que 16 accords signés sur les 50 plus grandes branches, et 8 autres accords dans d'autres branches, comme l'industrie agroalimentaire. Il y a encore des branches qui disent elles vont signer des accords, hein, elles sont en train de commencer à penser à les négocier, tout ça. Bon, ça fait quand même 2 ans qu'elles reçoivent la thune, et là, elles sont en train de penser à négocier. Il y en a d'autres qui ont dit qu'elles souhaitaient signer un truc, mais bon, elles n'ont pas encore vraiment mis ça en chantier.
Peut-être en 2018, par exemple.
Ouais, si ça se trouve. Et puis, il y en a 3 qui n'ont pas pris la peine de dire quoi que ce soit. Donc ça c'est sur les 50 plus grandes. Plus grosses. Alors, lundi, Valls, il s'est quand même fâché tout rouge. Nous avons souligné avec la ministre du Travail que ce n'était pas satisfaisant, que les engagements n'étaient pas respectés. D'autre part, pour ceux des accords qui ont été signés, tout le monde n'est pas non plus entièrement d'accord sur savoir si le contenu est quand même bien intéressant. Puisque Certains de ces accords ne vont pas très au-delà des engagements qui auraient été pris sans s'il n'y avait pas eu le pacte, enfin ou de ce qui aurait été fait s'il n'y avait pas eu le pacte. Selon la ministre du Travail, sur ces 50 branches, sur les 50 branches suivies par son ministère, 3 se sont engagées sur de la création nette d'emplois. Alors les autres, ils ont parlé de maintien de l'emploi, c'est-à-dire que bon, ils vont pas virer tout le monde dans leur boîte. Hein.
Mais tu sais,
ils ont quand même besoin de gens pour bosser pour eux.
C'est aussi parce que tu sais, le mot important, c'est la croissance. Alors les patrons, ils disent, ben, il n'y a pas de croissance, donc
tout à fait.
On peut pas en même temps récupérer plein de sous puis créer des emplois. Donc on récupère plein de sous et puis on attend que la croissance arrive, par exemple.
On s'en sert pour ne pas virer les gens tout de suite.
Bah voyons, croissance et compétitivité aussi.
Ah oui, t'as raison. Oui.
Et améliorer notre compétitivité, parce que bon, bien sûr, hein, je veux dire, t'es un patron. Tu produis des choses. Si le gouvernement te file plein de thunes, ça te coûte. Enfin, tu peux considérer que c'est déjà du profit la thune que tu as reçue. Du coup, tu peux vendre tes produits moins chers et tu gagnes en compétitivité. Ça, c'est clair. C'est ça. Du coup, il est question de maintien de l'emploi, de formation et de recrutement d'apprentis. Bah, autant dire que les entreprises, de toute façon, elles recrutent des apprentis, il y va de leur survie. Et donc en gros que des choses que les entreprises auraient sans doute faites même si on leur avait pas lâché tous ces milliards.
Alors, je voudrais juste rajouter un petit point, c'est que c'est pas si simple que ça puisque tu dis elles récupèrent de l'argent donc éventuellement leurs produits sont moins chers, sauf que c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Il se passe que une partie de l'argent qui est donné par l'État va dans les dividendes qui sont donnés à des actionnaires. Donc il y a vraiment un tunnel direct entre l'argent public et les actionnaires. Donc c'est encore plus vicieux et encore plus dégoûtant que ça.
Eh ben oui. Et donc, alors pour l'instant, on en est juste au bilan de ce truc du crédit d'impôt là, du CICE. Et donc, ce bilan est comme qui dirait mitigé. Selon une enquête de l'INSEE de juillet 2015, plus d'une entreprise industrielle sur 3 et une entreprise des services sur 2 déclarent que le CICE leur permettra d'embaucher, mais déclarer, ça coûte rien. Hein. Et donc, voilà, lundi, Valls s'est fâché, il a menacé pour la première fois de conditionner les aides aux entreprises accordées dans le cadre du pacte de responsabilité. Alors, le MEDEF a dit quoi ? Conditionner ? Bon, ils sont montés sur leurs grands chevaux et ils ont dit que tout conditionnement des aides serait une erreur majeure, bien sûr, et remettrait par terre tout ce qui a été fait depuis 2 ans. Alors qu'au moment même où, juste là maintenant, les entreprises commencent à avoir les tout premiers effets du pacte, tiens, juste maintenant. Et voilà. C'est pour ça qu'ils n'ont pas encore vraiment eu le temps d'embaucher qui que ce soit. Là, ils voient juste que, peut-être ils vont le faire le mois prochain si on ne les fait pas chier, mais surtout si on ne les fait pas chier. Mais alors, surtout, Valls n'a pas du tout indiqué comment il comptait s'y prendre pour conditionner quoi que ce soit. A priori, ça va être quand même très compliqué. Alors, soit il supprime la part 2017 de la trajectoire de réduction fiscale, mais en même temps, ce serait la merde, ça serait remettre en question à peu près tout ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant. Soit il renonce à la transformation du crédit d'impôt compétitivité emploi sous forme d'allègement de charges. On ne sait pas exactement, c'est les patrons qui veulent ça, mais à la fin, ça ne devrait pas quand même être très très pénible pour le patronat, même s'il fait ça. Mais est-ce qu'il peut supprimer ces aides à toutes les entreprises dont une branche n'aura pas signé d'accord ? Ça aussi, c'est un peu compliqué parce que du coup, il y a des entreprises qui, dans chaque branche, il y aura quand même des entreprises qui auront embauché et tout ça. Alors, est-ce qu'il va leur supprimer les aides à elles ? Ou est-ce qu'il va devoir plutôt regarder les réalisations entreprise par entreprise ? Alors là, j'aime mieux vous dire, il va falloir embaucher du fonctionnaire, quoi. Et sur quels critères ? Sursuit des emplois créés, sursuit des investissements qui permettront peut-être de créer des emplois plus tard. Bon, bref. La menace du conditionnement, elle est facile à agiter, mais elle sera pas du tout facile à réaliser, et le patronat le sait très bien. La question est donc de savoir si Valls a réellement pensé une seconde à mettre ça en œuvre, cette histoire de conditionnement, ou si c'est pas plutôt que c'est le moment pour lui de rassurer son aile gauche, au moment surtout où le projet de loi sur la réécriture du Code du Travail est attendu au Conseil d'État et risque un peu de fâcher à la gauche de Valls, c'est-à-dire à la gauche de Valls, ça fait de la marre. Ah pardon,
j'avais complètement
oublié de dire que 41 milliards d'euros, en fait, si au lieu de les filer pour embaucher des chômeurs, on les a filés directement aux chômeurs, sans doute il y en a un paquet qui aurait pu vivre pendant un paquet de temps avec ça. Voilà, pardon.
Et écoute, de toute façon c'est en pleine continuité parce que on va continuer dans les beaux cadeaux. Alors là, c'est pas encore acté, mais en tout cas on est dans l'esprit. Bon, alors vous souvenez, il n'y a pas si longtemps que ça, Hollande l'a promis, on ne touchera pas aux 35 heures. Et bien comme d'habitude, quand il commence à promettre des trucs comme ça, et bien il y a de quoi avoir peur. Le document de travail, alors ça c'est avant que ça devienne un projet de loi qui dans les mains de El Khomri, qui est la ministre du Travail, fait froid dans le dos. Ce document qui servira le 9 mars comme base de projet de loi proposé au Conseil des ministres. Alors bon, c'est vrai, la durée légale des 35 heures reste, la 36e heure très travaillée est payée en heures supplémentaires. Mais bon, alors ça, je vous préviens, c'est quand même juste pour sauver la face, hein, parce que le reste est corsé. Je vous en donne un aperçu. Par deux mesures, le document fait sauter le contrôle de l'inspection du travail. Alors tout d'abord, par la durée maximale du travail hebdomadaire, le document veut la faire passer à 46 heures pendant 16 semaines consécutives. Alors, c'est 46 heures par semaine contre 44 heures aujourd'hui sur 12 semaines consécutives maximum. Et même en cas de circonstances exceptionnelles, la durée pourrait aller jusqu'à 60 heures dans la limite de 12 heures de travail par jour.
De 12 heures de travail, c'est vrai que ce serait pas bien.
Non, ouais, 12, les gens meurent, quoi, au bout d'un moment. Alors, aujourd'hui, bon, c'est théoriquement possible, mais il faut que l'entreprise demande l'accord de l'inspection du travail qui, à juste titre, la refuse. Alors, je sais pas si elle la refuse vraiment tout le temps, si ça a jamais été accordé, mais quand même, dans l'immense majorité des cas, l'inspection du travail trouve que travailler 12 heures par, 60 heures par semaine et 12 heures par jour, c'est quand même vraiment excessif. Et peut-être qu'il y a un problème d'organisation dans l'entreprise. Bon, bah là, ce verrou saute, hein. Le patron aurait juste à trouver un accord avec le ou les syndicats. Et s'il n'y a pas d'accord, un petit référendum pourrait être organisé. Alors, imaginez quand même ce que ça pourrait donner dans une boîte de 15 salariés, par exemple, où bien souvent le représentant du personnel est mis en place par le boss. Le deuxième point où l'inspection du travail se voit ôter le peu de pouvoir qui lui reste, c'est pour les apprentis. Alors aujourd'hui, un apprenti ne peut pas bosser plus de 8 heures par jour et 35 heures par semaine. Sauf en cas de dérogation de l'inspection du travail. Donc avec la future loi possible, l'employeur n'aura plus qu'à avertir l'inspection du travail et aura le droit de faire bosser un apprenti 10 heures par jour dans la limite de 40 heures par semaine. C'est vrai quand même que les apprentis ne sont pas assez exploités et doivent juste faire des études en même temps que faire leur boulot. Autre point, vous aussi, vous trouviez que c'est quand même injuste de toucher tout le temps le même salaire chaque mois, tout ça. Bon, si vous avez la chance d'être en CDI et pas en intérim et tout. Eh bien, cette situation confortable est finie. L'entreprise pourra moduler librement votre temps de travail et votre salaire. Alors, pour le temps de travail, en général, ça risque d'être à la hausse, et pour le temps de salaire, ça risque d'être à la baisse. Vous l'aurez compris. Alors, depuis 2013, elle pouvait déjà, mais devait trouver un accord avec le syndicat et justifier d'une mauvaise santé financière. Bon, là, à croire quand même qu'on se fout sacrément de notre gueule. Maintenant, même si l'entreprise se porte bien, elle pourra le faire. Et tiens, d'ailleurs, si vous refusez de vous faire exploiter, en plus, vous serez licencié pour cause réelle et sérieuse. Bon, on ne sait pas ce que c'est les causes réelles et sérieuses. Et à l'heure d'aujourd'hui, si l'accord est trouvé et que vous refusez de travailler plus pour gagner moins, vous êtes licencié pour licenciement économique, pardon, ce qui est un peu plus avantageux au niveau des indemnités et du chômage, je crois. Bon, ça continue. Pour les personnes d'astreinte, aujourd'hui, elles peuvent être moins payées. Donc, c'est-à-dire que t'es d'astreinte, comme ça, t'as juste un téléphone portable, t'as pas trop le droit de bouger de chez toi ou dans un rayon de quelques kilomètres, mais tu peux être dérangé à tout moment, ce qui est quand même un peu chiant. Bon, ça justifie d'être payé. Bon, moi, je trouve que tu pourrais être payé pareil, hein, quand même, mais voilà. Eh bien, là, non. Le texte précise que si la personne d'astreinte est sollicitée, alors elle sera payée. Mais si elle est juste pas sollicitée pendant sa période d'astreinte, elle considère que ce sera juste du repos pur et simple. Autour des prud'hommes maintenant, hein, ces espèces de gauchistes de prud'hommes qui protègent les salariés quand même, les prud'hommes peuvent librement fixer, hein, aujourd'hui encore, des indemnisations s'ils trouvent que le licenciement est abusif. Bon, rien de bien révolutionnaire là-dedans. Le rapport prévoit un plafonnement et un barème que je vais vous donner. Les prud'hommes ne pourront pas aller au-delà d'une indemnité de 3 mois de salaire si vous avez moins de 2 ans d'ancienneté. 6 mois si vous avez bossé entre 2 et 4 ans dans la boîte, 9 mois si vous avez bossé entre 5 et 9 ans dans la même boîte, hein, on parle toujours de ça. Et alors, à partir de 20 ans d'ancienneté, vous ne pourrez pas toucher plus de 15 mois de salaire et pas un centime de plus. C'est-à-dire que si vous avez bossé 20 ans, 30 ans, etc., etc., voilà, pas plus de 15 mois. 15 mois, ça fait même pas un an et demi d'indemnité de chômage pour avoir trimé dans la même boîte. Pour les cadres, fini les 11 heures de repos consécutifs, désormais ils pourront être fractionnés. Voilà, en gros, on voit un peu la philosophie du rapport, c'est quand même de squeezer au maximum les syndicats et l'inspection du travail, appauvrir au maximum les accords de branche, qui étaient déjà des accords souvent bien au rabais par rapport au code du travail, pour privilégier les accords par entreprise, et donc d'avoir de plus en plus de salariés qui risquent de se retrouver seuls face à son patron pour négocier, ce qui est quand même en général pas trop très confortable quand il s'agit de, soit tu, en gros, hein, quand même, la négociation, c'est soit tu dégages, soit tu acceptes ce que je te dis. Vu le pourcentage de chômage, c'est vrai que les gens peuvent accepter des conditions de travail vachement plus difficiles. Donc voilà, bah là, en tout cas, entre ce que toi t'as dit avant et ça, là, on se dit quand même, le patronat, le MEDEF et les représentants des TPE, PME, tout ça, ils doivent être quand même hyper contents. Ils doivent leur payer des petits fours tous les jours à cela.
Alors ça va être très très court, on va aller du côté de l'Espagne et probablement une amie du patronat espagnol, je m'avance un petit peu mais je le devine, c'est la chef du Parti Populaire de Madrid, Esperanza Aguirre. Ben elle a annoncé sa démission. Alors il se trouve que c'est quelqu'un qui est un petit peu décrite comme la Thatcher espagnole, on en reparlera un petit peu après, et elle a annoncé sa démission en raison de scandales de corruption qui s'abattent en fait sans cesse sur sa formation, là, le Parti Populaire. Alors elle a dit: je ne suis pas directement responsable car je ne savais pas ce que faisaient mes trésoriers et je n'ai jamais volé un seul euro, mais je suis politiquement responsable, alors je pars. Donc tu vois, elle savait rien, mais elle part quand même parce qu'en fait, bon, elle aurait peut-être pu savoir, mais bon, quand même, voilà. Bon, en même temps, elle doit quand même choisir un petit peu son équipe et ils avaient l'air un petit peu véreux. Donc, Esperanza Aguirre, bye bye, 62 ans, qui a occupé des postes stratégiques en politique depuis 33 ans. Elle était à la tête de différents ministères, à la présidence du Sénat, etc., etc. Et donc, Thatcher espagnole, puisqu'elle était à la tête de la région de Madrid entre 2003 et 2014, elle a laissé un souvenir impérissable. Génial, un programme en fait ultra-libéral avec des trucs assez croustillants comme la privatisation des hôpitaux et puis aussi un truc pas mal, c'est le fait de favoriser l'enseignement privé. Voilà. Donc elle a fait ça. Malheureusement, un éditorialiste qui a l'air de savoir de quoi il parle dit qu'elle pourrait quand même revenir sur vers les sommets. Donc on n'est peut-être pas définitivement débarrassé d'Esperanza Aguirre. Donc, faut quand même signaler que c'est la bête noire de la juge qui est la mère de Madrid qui s'appelle Manuela Carmena. C'est la bête noire de cette femme-là puisqu'elle est dans l'opposition et puis donc elle s'agit de tous les côtés. Juste pour signaler que ça fait une épine de plus dans le pied de Mariano Rajoy. Vous savez, ce Gugus qui est à la tête de l'Espagne, donc qui est quand même très très à droite. Parce qu'il a, c'est quand même pas de bol, il y a une succession de scandales qui éclaboussent le Parti Populaire. Et en fait, ça dynamite un peu tout. Et c'est tout fortuit, hein, mais c'est à chaque fois lié au financement illégal du parti dans les années 2000. Donc c'est bien gluant comme affaire. Alors juste quand même pour vous donner une petite info croustillante sur Rajoy. La semaine avant, eh bien, Rajoy, il avait sauvé, entre guillemets, son allié, qui est la maire de Valence, qui s'appelle Rita Barbera, qui était aussi impliquée dans une affaire de pot de vin. Et là, lui, il s'était arrangé pour faire jouer son immunité sénatoriale. Voilà. Donc, ces petits arrangements entre amis. Voilà, Rajoy qui n'est pas très très entouré et on s'en réjouit. Et donc, cette dame qui serait un peu la Thatcher espagnole qui semblerait avoir un petit peu sauté.
Mais alors, si tu as dit la Thatcher espagnole, tu n'as pas dit la Sarkozy espagnole parce qu'elle au moins, elle a quand même démissionné. Contrairement à d'autres qui, de ce côté-ci des Pyrénées, sont mis en examen à peu près une fois par semaine et qui sont quand même toujours à penser qu'ils vont redevenir président de la République.
Alors, pardon, on vous en avait parlé il y a trois semaines, les salariés de l'entreprise Blue Star Silicone de Saint-Fons s'étaient mis en grève illimitée. Alors, on revient vite fait, il y a eu une petite erreur due à nos amis de Rebellion, là où j'avais pompé l'info, hein, mais il s'agit bien de Blue Star Silicone et non Blue Star Adiceo, comme on avait pu le dire. Voilà. Désolé pour cette excuse, pour cette terreur. Alors, cette entreprise a vu son chiffre d'affaires augmenter entre 2013 et 2014 de plus 7%, et c'est donc dans ce contexte florissant pour les dirigeants qu'ils s'étaient sentis le droit de refuser aux salariés une augmentation de 50 euros pour tout le monde. Bon, ça en était suivi 5 jours de grève bien suivis, où les grévistes ont réussi à arracher à leur direction une augmentation d'au moins 40 euros pour tout le monde. Alors, après la dernière proposition de la direction, les grévistes ont voté à la majorité la reprise du travail. Et donc voilà, donc c'est cet accord qui va désormais prévaloir, donc une augmentation d'au moins 40 euros pour tout le monde. Et ben voilà, on vous félicite et bon courage à vous.
À Alors, la semaine dernière, il y avait eu l'occupation du campus des quais du Rhône de Lyon 2 par le comité de soutien aux personnes sans papier et qui avait été délogé le soir même par la police. Et là, il y a deux copines qui sont allées faire un reportage pour... voilà, donc ça dure 14 minutes et c'est tout de suite.
Donc, le demandeur d'asile... Donc je fais partie des groupes des quinzaines de personnes qui sont en train de chercher à avoir l'inscription à l'université. Eh bien voilà, aujourd'hui c'est la continuation, on cherche toujours à avoir cette inscription qu'on n'a pas encore eu. On n'a pas encore ici. Mais quand même, il y a quelque chose qui est sorti parce que là, notre cause a été entendue. Je pense que pas mal des camarades n'étaient pas au courant de ce qui se passe ici. Moi, je pense que oui, on avance bien. Et je pense qu'on va mettre la pression à la direction. Donc, de prendre une décision aussi vite que possible.
Jeudi matin, il y avait des gens qui ont allé voir le président parce qu'en fait, on a demandé à plusieurs reprises de le voir, en fait, d'avoir un rendez-vous avec lui pour discuter de ces inscriptions des camarades sans papier. Sauf qu'il ne nous a pas du tout répondu et du coup, à un moment, on est un peu pressé quand même au niveau du temps. Il faut que ces camarades soient inscrits au plus vite possible. Et du coup, on a décidé d'y aller, d'essayer d'aller voir, en fait. Et du coup, on était dans le couloir, les gens du collectif. On était une dizaine le matin. Et du coup, voilà, on a voulu juste discuter avec lui, en fait. C'était tout. On n'a pas pu voir le président, même s'il était dans son bureau. Et c'était les vice-présidents qui sont venus nous dire « Mais vous n'avez pas à être là. » Enfin, c'est devenu un peu violent, enfin, dans leurs propos. Et du coup, c'est eux qui ont appelé la police et CRS, tout ça. Et du coup, on a dû évacuer le couloir de la présidence parce qu'il y avait des camarades sans papier qui étaient là. Et du coup, c'était très... ça aurait pu être très problématique.
Solidarité avec les sans-papiers, inscription
solidarité avec les sans-papiers, inscription immédiate pour tous nos camarades. Solidarité.
Lundi 15 février 2016, reportage au sein de l'Université Lyon 2. Pendant une manifestation, puis une AG, appelée par le collectif des étudiantes et étudiants étrangers de Lyon 2, suite à leur mobilisation de jeudi dernier, 11 février, pour la régularisation et l'inscription de tous leurs camarades immédiatement. Il dira que c'est une blague. Ce représentant de l'université qui cherchait à prendre des photos des étudiants et étudiantes mobilisés lors de l'occupation d'un amphithéâtre pour pouvoir faire enfin l'AG.
Vu qu'il y a pas mal de personnes en fait qui sont en solidarité spontanée et tout, c'est cool, mais l'idée là c'est de reprendre un peu avec les différentes personnes du collectif, qu'est-ce que c'est le collectif, lire le contre-communiqué qu'on a fait face au communiqué de la présidence de jeudi soir et de vendredi matin que vous avez sûrement reçu.
La raison pour laquelle on a organisé l'AG aujourd'hui, c'est parce que la semaine dernière, le jeudi, il y avait une grosse manifestation qui s'est faite assez spontanément et qui a très très bien marché. Et du coup, on a voulu justement faire un AG aujourd'hui pour expliquer aux gens plus concrètement ce qu'on fait, parce que du coup, on a vu qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient motivés pour se mobiliser avec nous et de nous aider, de nous soutenir. Et c'est pour ça qu'on a commencé par la présentation du collectif et avec les témoignages des camarades sans papier, parce que en fait, jeudi, il y avait quelqu'un qui nous a dit ce serait mieux en fait de voir les gens directement concernés dans le collectif, parce que souvent il y a des gens, enfin des personnes françaises on va dire du collectif qui va prendre la parole. Et du coup c'est pour ça qu'on a voulu un peu dynamiser les interventions.
Weed and the key them to life. Let's beat them. Weed them smartphones, don't beat them.
Yeah.
Mais à côté de ces luttes, il y a tout ce qui est en fait apporter des informations aux étudiants étrangers qui n'ont pas forcément beaucoup de, comment dire, de sensibilisation sur les problèmes de papier qu'on pourrait avoir en fait. Enfin, moi personnellement, je suis étudiante étrangère et je savais pas du tout qu'il y avait tous ces problèmes en fait avec la préfecture. Et enfin, moi par exemple, j'ai reçu un OQTF, une obligation de quitter le territoire français, parce que j'ai eu des problèmes personnels et je me suis désinscrite de la fac. Mais en fait, je savais pas du tout que ça pouvait être. Du coup, je savais pas du tout que ça pouvait poser un problème pour renouveler mon titre de séjour plus tard. Et du coup, le collectif, c'est donner des informations aux étudiants étrangers pour qu'ils subissent pas en fait ce genre de problèmes de la préfecture, et apporter du soutien, d'être ensemble, voilà, d'avoir du soutien quoi. C'est pas facile quand on est à l'étranger, quand on n'est pas beaucoup de gens et qu'on a des problèmes de papier. Et puis le collectif quand même, il connaît pas mal de choses sur la loi, ils ont des contacts, ils sont capables de se mobiliser, et tout ça, c'est un super réseau de soutien pour lutter ensemble, ouais, pour avoir des papiers et rester en France. Et du coup, après ce qui s'est passé jeudi, le président nous avait envoyé un communiqué de presse à tous les gens de l'université. Et en fait, il a fait d'une manière très... il avait un parti pris forcément. Et du coup, ça montrait vraiment dans le mail. Et pour les personnes qui n'étaient pas au courant de ce qui s'est passé vraiment, c'est très très problématique pour nous, parce que justement ça peut faire éloigner des gens qui peuvent nous soutenir en fait s'ils savaient vraiment ce qui s'est passé. Je vais vous lire ce qu'on a rédigé. Alors, tous les étudiants et personnels de l'Université Lyon 2 ont reçu vendredi un mail de M. Maillot, président de l'université. Nous n'avons pas les moyens d'envoyer une réponse à tous et toutes comme ce dernier. Nous transmettons donc une réponse à partager le plus possible pour nous exprimer sur ce que nous considérons être un communiqué calomnieux. Rappelons que notre collectif négocie depuis plusieurs mois avec la présidence pour l'inscription de ses membres sans papier ou demandeurs d'asile. Certaines inscriptions ont été obtenues, mais la présidence, après avoir joué la montre en faisant la sourde oreille aux demandes de rendez-vous, précisant que le rendez-vous avec le vice-président évoqué dans le communiqué n'a eu lieu que parce que nous nous étions rendus dans son bureau, la demande de rendez-vous n'ayant jamais obtenu de réponse. La présidence se refuse maintenant à toute inscription, renvoyant les demandes à la rentrée universitaire 2016-2017, au mépris de la situation particulière et fragile d'étudiants arrivés tout récemment sur le territoire. En fait, c'est très très urgent que les camarades soient inscrits au plus vite possible, parce que c'est des demandeurs d'asile. Et si, c'est pas toujours facile en fait d'accéder au statut de réfugié. Donc, s'ils ne peuvent pas s'inscrire à la fac aujourd'hui, ça veut dire qu'ils peuvent, si leur demande d'asile est refusée, ils ne peuvent pas, par exemple, faire une demande de titre de séjour étudiant. Donc, après, ils vont recevoir un OQTF. Du dialogue avec les vice-présidents, il est en fait apparu clairement que le durcissement de la position de l'université était plus lié aux pressions exercées par la préfecture qu'à des motifs pédagogiques ou administratifs. Donc ça, c'est les mots du président. Notre université a de nouveau été l'objet d'une intrusion violente dont il est nécessaire de restituer le déroulé et d'établir la gravité. Revenons effectivement sur les faits. Nous nous sommes présentés à une quinzaine dans les couloirs de la présidence. Rapidement, des agents de sécurité ont été déployés, nous empêchant de rencontrer le président, pourtant présent dans son bureau. Les vice-présidents envoyés à notre rencontre, après de brefs échanges, ont rapidement menacé de faire appel à la force publique pour évacuer 15 étudiantes du couloir, dont plusieurs sans papier. alors que des agents de renseignement généraux étaient déjà présents. La menace a finalement rapidement été mise à l'exécution, en pleine connaissance des conséquences potentiellement dramatiques pour les sans-papiers à présent. Pour la présidence, notre simple présence dans un couloir serait ainsi constitutive d'une violence et justifierait la mise en danger de nos camarades sans-papiers, par le risque pleinement assumé d'interpellation et d'expulsion. Que signifie intrusion violente ? La présence d'étudiantes ou de futures étudiantes dans le bureau du président de l'université ou l'irruption de forces armées sur le campus.
Solidarité avec les sans-papiers. Inscription immédiate.
Solidarité avec les sans-papiers. Inscription immédiate.
Et les échéances alors militantes, les rassemblements et les projets là, à venir, c'est quoi ?
Du collectif. Bah, du coup, c'est continuer à se rassembler. Mettre la pression au président là, mercredi. Et enfin, je pense qu'on est quand même bien parti, mais si jamais ça traîne encore, bah, ce serait encore s'organiser pour manifester le plus nombreux possible et de continuer à mettre la pression non seulement à l'université, mais à la préfecture, et d'organiser ces dépôts collectifs ensemble. Et voilà, ouais.
Du coup, c'est mercredi à 16h, se retrouver à l'université en vue du rendez-vous du collectif à 17h avec le président, pour montrer que voilà, que c'est pas trois étudiants qui sont tout seuls face à la présidence et qu'il y a plein de gens derrière qui les soutiennent, c'est important pour les décisions, enfin les négociations qui vont être menées, quoi. Et ensuite, à la rentrée des vacances. À la rentrée des vacances scolaires et universitaires, l'idée, ça serait de faire une manifestation le mercredi 2 mars pour voir un peu combien on est, se mobiliser tous ensemble, montrer qu'on peut être nombreux, et ensuite le jeudi faire une journée de vraiment où pour le coup on va à la préfecture et où on demande concrètement la régularisation de tous les camarades en déposant les dossiers. Donc du coup ce sera le jeudi 3 mars.
Par un petit décalage du côté du continent africain. Et voilà, on va parler d'infos qui sont liées aux prochaines semaines. Mais je vous propose quand même de faire un petit tour dans le passé avec un article du Monde que j'avais lu cet été, et j'en avais failli m'en étrangler. Ça s'appelait La conquête de l'Ouest. Alors déjà, ça partait mal. Je vous rassure, c'était pas l'Ouest américain. Il s'agitait plutôt de l'Ouest africain. Et la conquête, c'est par quelqu'un qui, vous allez le voir, représente la beauté dans sa splendeur de la France-Afrique. Alors, direction Cotonou, c'est la capitale du Bénin. En fait, si vous y allez là-bas, vous voyez qu'il y a une gare. Et en fait, derrière cette gare, il n'y a pas de train, puisque en fait, le train s'est arrêté en 84, je crois. Voilà. Donc il y avait une compagnie nationale qui, depuis 59, en fait, exploitait le train qui partait donc de Cotonou et qui passait jusqu'à Parakou. Parakou, c'est 300 km au-dessus, toujours au Bénin. Le Bénin, c'est un petit pays, assez étroit, qui monte vers le nord jusqu'au Burkina. Et en fait, donc je vous lis quand même ce qui est écrit dans l'article. Hein. Le destin de ces cheminots désœuvrés, celui du Bénin, voire de l'Afrique de l'Ouest, est peut-être en train de basculer. Un sauveur s'est présenté. Donc déjà, là, vous vous dites aïe aïe aïe. Il s'appelle Vincent Bolloré, il est industriel breton. Sa fortune pèse davantage que le PIB annuel du Bénin. Voilà. Alors donc, en fait, l'histoire, c'est que Vincent Bolloré, il aime très très fort l'Afrique. Il a le cœur sur la main, mais vous le savez, il a aussi la main dans le porte-monnaie, ce qui fait que ça fait pas bon ménage. Donc en fait, il gère déjà une trentaine, de terminaux portuaires en Afrique. Et puis il se met à la conquête donc de l'Ouest. Et il a décidé d'investir plusieurs milliards d'euros pour créer une grande boucle de chemin de fer qui, en fait, partirait donc de Cotonou, qui monterait jusqu'à Niamey du côté du Niger, qui ferait un tour du côté de Ouagadougou, puis au Burkina, et puis qui redescendrait vers Abidjan en Côte d'Ivoire. Donc voilà, ils sont allés voir le monde, donc Monsieur Bolloré, ils lui ont posé quelques questions, ils lui ont dit quelles étaient ses motivations, hein. Par exemple, sa conviction, c'est que l'Afrique est au début de son développement et que ça va aller bien plus vite que les experts ne le pèsent. On lui pose la question, est-ce qu'il y a un modèle économique pour cette grande boucle ferroviaire? Eh bien, il répond qu'un chemin de fer dans un continent en pleine croissance, voilà, de nouveau, quand on est le 5e transporteur mondial, ce n'est pas déraisonnable. Donc voilà, Bolloré est parti pour faire de la grande France-Afrique et donc construire tout seul avec son flouze un superbe chemin de fer. Alors, il n'est pas parti tout seul, il est parti avec deux petits anges qui s'appellent Michel Roussin et Ange Mancini. Alors, le premier, c'est pas du tout la France-Afrique, je vous rassure, c'est un ancien haut responsable des services secrets français, ancien chef de cabinet de Jacques Chirac, ancien ministre de la coopération, et il a été aussi conseiller d'Henri Poglio chez EDF. Alors, c'était pas, à mon avis, pas pour la couleur des drapeaux EDF, c'était plutôt pour comment on allait faire pour aller mettre de l'EDF un peu partout. Et puis alors l'autre coco, eh bien, c'est un ancien commissaire, ancien patron du RAID, qui est la section d'élite de la police. C'est un ancien préfet et ancien coordinateur national du renseignement auprès de Nicolas Sarkozy, puis de François Hollande, parce que bon, ils sont quand même... Voilà. Donc c'est ces deux bonhommes-là qui mènent de front cette idée de chemin de fer. Alors, le monde les a un petit peu interrogés, mais le monde a été quand même très, très soft, hein, pas du tout de subversion là-dedans. Alors, en gros, Michel Roussin, il dit, ouvrez les guillemets, cette boucle, c'est la conquête de l'Ouest. Donc là, on sent vraiment le retour de la France-Afrique. Et il rajoute, le tracé date des colonies en 1903, ça s'est arrêté en 1935-36, sans faire la boucle, on va terminer le travail. Voilà, donc c'est vraiment cette idée de terminer ce qui a été entrepris pendant les périodes coloniales. Donc là, au moins, c'est explicite. Et puis, il y a son copain, Ange Mancini, qui dit, on va transporter, avec le train, hein, donc du coton, bien, des fruits, des céréales, du ciment, du pétrole, du bois, du bétail, des animaux, des minerais, beaucoup de minerais, et bien sûr, des gens. Voilà, donc, c'est à la fin, extrême fin.
Il veut dire comme marchandise, des esclaves.
Voilà, c'est un peu ça. Non, mais il faut savoir qu'à mon avis, pour y être allé au Bénin, le train, il y a plein de lignes de bus, et les gens prennent des lignes de bus et ils s'en sortent très bien. C'est vrai que le train, bon, c'est assez magique dans l'inconscient, en tout cas de ce côté de la Méditerranée, mais bon, ça ne correspond pas forcément à un besoin là-bas. Bref, ça, je ne sais pas trop. Voilà. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il reparle des gens après, puisqu'il dit des gens qui n'avaient jamais vu de rail, eh bien maintenant, ils les soudent. Ben oui, parce que du coup, ils ont commencé avec du petit personnel maison à faire des travaux jour et nuit, voilà, pour essayer de construire cette
cette grande ligne de chemin de fer. Alors, juste pour vous dire pourquoi je vous parle de ça maintenant, c'est que l'histoire se complique. Il se trouve qu'il y a un autre milliardaire, mais cette fois-ci qui est un enfant du pays, un enfant béninois, un fils du pays, qui veut faire à peu près la même chose en plus court. Et donc, il y a une espèce de micmac, un petit procès, avec évidemment, il y a les présidents des pays qui s'en mêlent. Bon, alors pourquoi je vous parle de ça? Je vous le disais, c'est que du côté du Bénin et du côté du Niger, il y a des élections dans les prochaines semaines, respectivement le 21 février et le 28 février. Et, alors cette fois-ci c'est encore le Monde qui le dit, le groupe Bolloré a l'habitude de ne jamais prendre part, de jamais se mêler des élections en Afrique, comme par hasard. Sauf que, eh bien, il y a Havas.
C'est quand même un peu dingue de le préciser aussi. Je me demande quel groupe ivoirien, par exemple, aurait peu l'habitude de prendre part de décider, par exemple, qui sera le prochain président en France, tu vois.
Voilà, c'est ça. Bon, le retournant, je vous la fais courte quand même, mais juste pour vous dire que c'est le groupe Havas, qui n'a rien à voir avec Bolloré. Non, c'est juste dirigé par le fils Bolloré. Bon, bref. Qui a pris en main une partie de la campagne du côté des élections du Bénin, et qui s'est mis, non pas avec le successeur du président actuel du Bénin, mais qui s'est mis avec un autre candidat qui se trouve être le patron du MEDEF local. Voilà. Mais tout ça, c'est indépendant de cette histoire de train, bien sûr. C'est indépendant de toute cette vision france-africaine qui pourrait avoir lieu. Voilà, donc, je vous passe un peu les détails. On va essayer de surveiller ça, essayer de voir qui c'est qui sera élu dans ces pays-là. Mais vous voyez que notre ami Bolloré reste un petit peu emprunt de cette poésie du colonialisme qu'il a l'air de vouloir remettre à jour.
Alors, un projet de loi visant à criminaliser la fraude est en train de passer à l'Assemblée. Alors, un projet de loi qui devrait être voté début mars. Donc, c'est compris, bien sûr, hein, dans l'ensemble des lois antiterroristes. Bon, maintenant, on peut plus savoir lesquelles, je sais, il y en a tellement et tellement et tellement. En tout cas, c'est celles qui ont fait suite à l'attaque ratée du Thalys l'été dernier. Oui. Celle qui vise à sécuriser les transports. Donc là, c'est bien de ça qu'on parle. Alors, les médias commencent à peine à en parler. La seule mesure dont ils parlent, c'est une des mesures un peu symboliques, celle qui concerne la pénalisation de la signalisation des contrôleurs. Alors, la cible principale de cette mesure sont les différents comptes Twitter et autres réseaux sociaux, où les usagers signalent en temps réel la position des contrôleurs qu'ils voient sur leur trajet. Mais ça concerne aussi les personnes qui, par exemple, dans les trams à Lyon, qui ont repéré des contrôleurs en civil, et le signalent aux personnes qui vont entrer dans la rame, comme pour que les gens puissent faire gentiment demi-tour et éviter de se taper une prune. Donc voilà, ce délit pourra être puni de 2 mois de prison et 3 750 € d'amende.
Donc c'est un délit, hein ?
C'est un vrai, voilà. Alors, le délit de fraude par habitude est également élargi. Jusqu'à maintenant, il était passible de 6 mois de prison et 7 500 € d'amende les usagers qui cumulaient 10 procès verbaux non payés dans l'année. Avec le nouveau projet de loi, on passe tout simplement à 5. Donc, si le projet de loi passe, à partir de 5 amendes non payées par an, et ça va très vite, croyez-moi, on risque de passer devant un juge qui prononcera la sanction.
De prison ferme, donc c'est bien ça qu'on dit, hein.
Prison ferme, attends quand même. 5 amendes impayées, ça va d'autant plus vite si vous êtes à une mutuelle des fraudeurs, par exemple. Alors le principe est simple, on cotise par mois à une mutuelle des fraudeurs, on évite de se faire choper au maximum, et si jamais une amende tombe, c'est la mutuelle qui paye. Bon, bah, cette forme d'organisation de solidaire, un peu directe, est aussi criminalisée par le projet de loi, puisque sera puni de 6 mois de prison et 45 000 € d'amende pour la publicité d'une mutuelle de fraudeurs. Alors, le délit de cette publicité concerne la presse écrite et audiovisuelle ou tout autre moyen de communication au public en ligne.
Ça s'est passé, ça ?
Non, c'est pas encore passé, mais a priori, ça va passer quand même. Il y a quand même peu de choses, ça va être voté
début mars,
ouais, et ça a déjà fait un peu d'aller-retour, il y a déjà eu des choses qui ont sauté. Hein. Mais c'est pas tout. Et comme la cible de ce projet de loi est avant tout les pauvres qui essayent de se démerder, la vente à la sauvette de titres de transport est punie, alors là, de 6 mois de prison et 3750 euros d'amende. Ah, parce que c'est vrai, quand on voit les gens vendre les tickets encore valides qu'ils ont trouvés dans les poubelles, on se dit qu'il y a un sacré niche fiscale à éradiquer. D'ailleurs, depuis que Rivalta n'est plus président du Citral, vous pouvez le retrouver devant les stations de métro où il revend les tickets gratos qu'il avait eu durant son mandat pour arrondir ses fins de mois. Si vous êtes adepte de la technique du sprint quand vous voyez les contrôleurs, eh bien là aussi, sachez que vous êtes un délinquant en puissance et vous risquerez également le forfait 2 mois de prison et 3750 euros d'amende. Bon, et si vous n'êtes pas un grand sportif comme moi, hein, et que vous êtes plutôt... et que vous voulez plutôt donner intentionnellement une fausse adresse, pareil, là aussi, hop, package, 2 mois de prison, 3750 euros d'amende. Bon, l'article ne précise pas si on donne une fausse adresse de manière non intentionnelle, si par exemple il faudra plaider la démence devant le juge, ça on ne sait pas encore. Bon, il s'agit là très clairement d'une attaque envers les pauvres, il n'y a pas besoin d'être sociologue pour se dire que les fraudeurs sont quand même dans l'immense majorité des personnes qui n'ont pas de thunes pour payer le prix exorbitant des transports en commun, que ce soit pour les TCL, pour Lyon ou la SNCF ou tous les autres transports en commun en France. Qu'en plus de sanctionner le fait de ne pas avoir de thunes et criminaliser ceux qui s'organisent en concert en France, on remarquera que ce projet de loi va dans le même sens que, bien sûr, les portiques qu'il y a à l'entrée des stations de métro, le nombre grandissant de caméras dans les bus, une fois j'en ai compté jusqu'à 6 dans les tout nouveaux, hein. Caméras souvent à la pointe de la technologie avec des logiciels de reconnaissance de comportements suspects, l'installation de portiques de sécurité à l'entrée de certains trains, etc., etc. Ça, c'est pour le côté nouvelle technologie, mais il y a également l'élargissement des pouvoirs de la police des transports, les contrôleurs en civil qui font leur apparition dans de plus en plus de villes. Alors pour l'instant, comme la loi ne peut pas nous tomber dessus, on ne peut que vous inciter à frauder, à faire connaître aux autres usagers la présence de contrôleurs. Et si vous voulez quelques petites astuces, vous pouvez toujours aller lire l'article sur Rebellion qui s'appelle « Conseils pratiques à l'égard des usagers des TCL ». Et comme petit conseil, si vous fraudez dans le métro, je vous conseille personnellement de sortir des quais par les ascenseurs. Souvent, les contrôleurs privilégient les flux des voyageurs assez importants et pas l'ascenseur. Voilà, et si vous avez l'âme, vous avez toujours l'âme de frauder avant que la loi passe, barrez-vous en courant quand vous voyez des contrôleurs, même si vous avez un titre de transport, cela leur fera les pieds et évitera peut-être à quelqu'un de se prendre une prune, sinon on vous conseille de rejoindre ou de monter une mutuelle des fraudeurs.
À très très court, on va du côté du Sénégal, où en fait il y a eu une espèce de grosse polémique assez symptomatique. Il se trouve que Wally Seck, qui est un chanteur sénégalais à succès, il a dans son dernier clip porté un sac de femme. Voilà. Et du coup, il a été accusé de promouvoir l'homosexualité. Alors, il s'est trouvé que, en fait, dans la presse, dans les réseaux sociaux, il y a eu des grandes embardées d'homophobie. Et puis, il y a eu aussi des manifestations qui se sont déroulées. Alors, voilà. Donc, en l'occurrence, comment il s'en est défendu, ce chanteur? Eh bien, en fait, il a essayé d'être encore plus homophobe que les personnes qui l'attaquaient. C'est comme ça qu'il s'en est sorti. Et c'était juste pour rappeler que, donc, au Sénégal, en fait, comme dans pas mal de pays, les homosexuels risquent de la prison. Et du côté du Sénégal, c'est jusqu'à 5 ans de prison.
Et en France, on ne risque plus la prison quand on est homo, mais ça n'empêche pas d'avoir des élus très homophobes. Donc Laurent Wauquiez, malheureusement président de notre région et numéro 2 du parti Les Républicains, a affirmé dimanche lors de leur conseil national son souhait de faire abroger la loi Taubira instaurant la légalité du mariage pour les couples du même sexe. Et oui, tu rêves, Vovo, tu rêves, une loi ça ne s'abroge pas comme ça. Et aujourd'hui, interrogé sur une ouverture de la procédure médicalement assistée, la PMA,
procréation médicalement assistée.
J'ai dit quoi ?
Procédure.
Ah, la procédure. Et oui, parce que tout à l'heure aussi, tu as dit le PAX au lieu du pacte. C'est trop exotique. Donc, la PMA aux lesbiennes et célibataires, Laurence Rossignol, dans Libé aujourd'hui, donc elle a été interrogée. Et Laurence Rossignol est notre nouvelle ministre de la famille, de l'enfance et des droits des femmes. et elles répondent avoir, je cite, « pas plus de raisons aujourd'hui qu'hier de relancer ce dossier ». Alors déjà que le nom de ce ministère fout les chocottes et ramène et cantonne les femmes à la famille, à la procréation, mais surtout cette déclaration, c'est vraiment du foutage de gueule, puisque il serait plus judicieux à l'heure actuelle de dire que, hanté par les manifs pour tous, le gouvernement recule ce dossier pour ne pas augmenter les tensions. Parce que ce qui s'est passé, c'est que ce projet de loi, et du coup qui doit être discuté au préalable, était initialement prévu fin 2014, puis début 2015, puis le projet de loi a été à nouveau reporté en mars, et ainsi que cet automne. Et donc eux, ils disent oui, ce n'est pas du moins, elle raconte ça, alors que ça fait un moment que c'est eux qui le reportent. Et donc je conclurai par donc ces mots de Rossignol. Ces sujets doivent être traités par une société apaisée, assure-t-elle. Autant dire qu'il sera traité quand les poules auront des dents, puisque oui, il y a un clivage actuellement entre les réacs homophobes et hétéros et les gens un peu plus normaux.
On peut quand même s'interroger de savoir comment Wauquiez ou Wauquiez peut être autant réac. Est-ce qu'il le fait exprès? Est-ce qu'il a
perdu un pari?
Une espèce de guide du réac. C'est invraisemblable.
Il est le second aux Républicains, il veut être le premier.
D'accord.
Et il y a un peu l'air du temps qu'il porte quand même.
Bon, il est 58, il me reste 2 minutes pour faire mon petit agenda. C'est une soirée de soutien à FPP, qui est une radio associative militante à Paris, puisque c'est Fréquence Paris Pluriel. Et la radio organise une soirée de soutien qui aura lieu, pas tout de suite, mais qui aura lieu le 13 mars à 17h. Et c'était surtout pour dire que c'est une radio. Alors l'année dernière, nous, on a fait un appel à dons pour acheter notre local, on l'a acheté, beaucoup d'auditeurs et auditrices ont participé. Et donc là, c'est pour dire, si vous avez un peu de sous, n'hésitez pas à en donner à Fréquence Paris Pluriel, qui est le 106.3 MHz, qui est comme Canu, une radio associative et libre, où il y a près de 100 émissions et plus de 200 bénévoles qui prennent l'antenne pour faire entendre d'autres voix, d'autres points de vue. La radio est leur passion, et il n'y a pas de salariés. C'est à tout le monde, à FPP comme à Canu, notre outil commun pour relayer les luttes, qu'elles soient sociales ou culturel, c'est le haut-parleur de nos rêves d'émancipation. Et FPP, pareil, ne diffuse aucune publicité, elle donne la parole aux communautés étrangères de Paris et banlieue, et elle fait entendre toutes les musiques qui dérangent et se fout de l'industrie du disque. Bref, soutenez les radios libres, soutenez Fréquence Paris Pluriel. Et pour la programme de cette soirée qui aura lieu le 13 mars à Paris, c'est la projection du film Radio La Califata, autour de la première radio au monde animée par les patients d'un hôpital psychiatrique. Et du coup, ce film sera avec la présence d'Alfredo Oliveira, initiateur du projet de la Radio La Califata de l'hôpital Borda de Buenos Aires. Bref, c'était aussi pour vous faire un clin d'œil de ce film génial. Donc, si vous n'allez pas à cette soirée, vous pouvez aussi le télécharger, le regarder par d'autres moyens et d'envoyer des sous à Fréquence Paris Pluriel.
Et bien, on a quelques secondes de retard. On laisse vite la place à Idénoir, l'émission de la coordination des groupes anarchistes. Et vous écouterez quelques secondes de bande continue pour le temps de s'installer.
Ciao.
Merci
de
vous écouter.
Ciao. Oh, man.